de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, l'émission la plus sinistre de l'année chez 7 milliards, cuisiner sans sucre. Mais non, vous allez voir, ça va très bien se passer. Cuisiner sans sucre, c'est possible. À l'origine, le sucre permettait la conservation de certains aliments ou encore d'adoucir l'acidité de certains fruits, tout comme l'amertume, par exemple du café. Le problème, c'est que le sucre nous donne envie de manger toujours plus de sucre. Et ça, tout le monde peut s'en rendre compte. Et pour ceux qui mangent peu de sucre, eh bien, c'est toujours la déception d'acheter des gâteaux dans une pâtisserie parce que vous vous dites « Ouh là là, c'est bon, mais oh, qu'est-ce que c'est trop sucré ?» Alors la vraie question qu'on va poser à nos invités spéciaux, un dessert sans sucre ajouté, peut-il être vraiment réussi? Par quoi remplacer le sucre? En quelle quantité? Du miel, des purées de fruits, du sucre de coco? Les voisines et les voisins, évidemment, on attend vos meilleures recettes, celles qui vous font oublier l'addiction au sucre. Et surtout, n'attendez pas la fin de l'émission pour partager vos astuces. Le compte WhatsApp, c'est tous les jours le même pour nous appeler ou nous laisser des messages vocaux et écrits. Je vous le redonne, c'est le 33 7 64 45 51 41. Dans le studio à mes côtés, Anto Cocagne. Bonjour Anto.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous, le chef Anto, chef à domicile. Et puis aussi, vous êtes l'auteur de Goût d'Afrique, publié chez Mango Édition. Également avec nous, Fatoumata Diarra. Bonjour Fatoumata.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, créatrice culinaire, votre entreprise Papilles Exotiques est spécialisée dans les pâtisseries afro, vegan, sans gluten et aussi très souvent sans sucre. Alors là, j'entends déjà des auditeurs qui se disent « Bon alors, pas de sucre, pas de gluten, pas de produits laitiers, pas d'œufs, mais il reste quoi dans un gâteau ?» On est également en ligne avec une blogueuse et auteure culinaire. Bonjour Marie Chioca.
Bonjour.
Votre blog très connu qui s'appelle « Saine gourmandise », je précise, au pluriel. Vous avez publié plus de 40 livres de cuisine. Alors, des livres pour certains très classiques. Et puis il y en a un qui s'appelle « Réussir ses pâtisseries sans sucre ajouté » aux éditions Terre Vivante. Et là, quand je dis « sans sucre ajouté », dans ce livre-là, c'est uniquement pour le goût sucré des fruits frais et des fruits secs. C'est quand même une sacrée prouesse. On va en parler avec vous tout à l'heure.
Avant Marie. Je ne l'ai pas écrit toute seule, je l'ai écrit avec ma fille, qui est aussi pâtissière de métier. Donc voilà,
c'est
une prouesse technique aussi, on va dire. Voilà.
Exactement, et vous allez nous en parler. Et bien sûr, vous nous appelez, les voisins, les voisines, 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, bienvenue.
milliards de voisins pour parler cuisine, cuisine sans sucre. On ne peut pas commencer cette émission, évidemment, sans donner la parole au célèbre chroniqueur de Priorité Santé. Bonjour Stéphane Besançon.
Bonjour Emmanuel.
Caroline Paré, évidemment, m'a donné l'autorisation de vous faire participer à l'émission pour refaire une petite piqûre de rappel, un peu de pédagogie, puisque vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Redites-nous rapidement pourquoi le sucre est mauvais pour la santé.
Quand on parle des sucres, des sucres raffinés, on va dire, hein, parce qu'une consommation en excès, en fait, va entraîner très souvent des calories en plus, donc qui va conduire très souvent au surpoids et à l'obésité, hein, comme quand on consomme beaucoup de soda, beaucoup de choses comme ça, et donc favoriser la survenue de maladies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Et ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que la consommation de sucre simple en excès, quand ils sont en excès, ils vont être transformés en graisse par l'organisme, et là aussi, ça va amener des graisses excédentaires à l'organisme qui va stocker, et de nouveau, surpoids, obésité, toutes ces maladies un peu maintenant qu'on appelle les maladies du mode de vie, hein, cardiovasculaire, diabète, etc., etc. Donc il y a une vraie conséquence santé néfaste à la consommation de ce sucre raffiné en excès.
Est-ce que remplacer le sucre par du miel, par exemple, ou d'autres alternatives, c'est moins mauvais ou finalement, quand on a le goût du sucre dans la bouche, ça veut dire que c'est pas bon pour la santé ?
Alors, ce qui se passe, c'est que qu'on soit sur du sucre de coco, du miel, etc., on reste sur du sucre. Hein. Donc, du coup, il ne faut pas penser qu'on on sucre moins. Par contre, ce qui se passe, c'est que, par exemple, c'est le cas avec le miel, le pouvoir sucrant du miel est beaucoup plus fort. Donc, le goût est plus fort. Donc, on peut en mettre moins en quantité pour obtenir le même goût sucré. Donc là, il y a un vrai gain, parce que, du coup, avec un pouvoir sucrant plus fort, eh ben, on va avoir besoin d'une quantité de miel plus faible que si on avait mis du sucre blanc, par exemple, ou du sucre brun. Donc, il y a un vrai intérêt pour la baisse de la quantité qu'on va pouvoir mettre dans une recette ou dans un yaourt ou dans tout autre plat.
Et c'est la même chose pour le sucre de coco ou le sucre des fruits réduit en purée. Leur pouvoir sucrant permettrait d'en utiliser moins ?
Alors ça dépend lesquels, hein. Là il y a une gamme. Alors pour le miel, oui, le pouvoir sucrant est beaucoup plus fort. Le sucre de coco, ce qui est recherché, c'est plus là que lui, il apporte des vitamines et des minéraux et puis un prébiotique qu'on appelle l'inuline. Donc qui, on va dire qu'il a même des composés nutritionnels intéressants en plus, mais ça ne change pas beaucoup au niveau du sucre. C'est vraiment le miel qui a un pouvoir sucrant très très fort.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Besançon. On ne pouvait pas commencer cette émission sans vous entendre pour cuisiner ensuite avec pas de sucre ou beaucoup, beaucoup moins de sucre. Très, très bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Merci Stéphane.
Merci beaucoup.
Et bien sûr, hein, on vous renvoie les voisines et les voisins si vous vous intéressez à ce problème de sucre dans la santé, à toutes les émissions présentées par Caroline Paré. Sur cette thématique, un message de Roger à Kinshasa que je vous soumets, Anto Cocagne, qui nous dit en RDC, le sucre, c'est pas un réel problème parce que dans notre régime alimentaire, on n'a pas beaucoup de sucre. Par contre, c'est tout le contraire en Occident, dans les pays développés d'Asie. Dans beaucoup de régions d'Afrique, le sucre est un luxe. C'est plus tout à fait vrai.
Non, c'est plus tout à fait vrai.
Vous êtes
parce
bien placé
que
pour le savoir.
Dans les boissons, je pense au bissap, pense au jus de gingembre, je pense au thé, le thé mauritanien, le café tout bas. C'est extrêmement, 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 extrêmement sucré.
Voilà. Et Claude, qui est à Bounia, toujours en RDC, nous dit « On souffre de sous-information alimentaire. On ne sait pas par quoi remplacer le sucre. » Et surtout, comment le remplacer ? Donc, chez Priorité Santé, on vous explique pourquoi le sucre est dangereux pour la santé. Et maintenant, chez 7 milliards, avec nos spécialistes, on va se mettre au fourneau avec les chefs qui ont bien écouté effectivement les explications de Stéphane Besançon. On va tester des recettes. Et bien sûr, les voisines et les voisins, on attend vos expériences, vos desserts, vos plats les plus réussis, sans sucre ou avec très très peu de sucre au 33 7 64 45 51 41. Un message d'Ibrahima aussi, qui est en Côte d'Ivoire. Comme je bois beaucoup de café, je mets du citron dedans pour remplacer le sucre.
Du citron ?
Oui.
C'est... Ah, j'ai jamais essayé café-citron. Thé citron, je connais, mais pas café citron.
Café citron, pour moi, c'est pareil, c'est nouveau, c'est ça.
A priori,
je
ne
sais pas ce que ça peut donner.
Personnellement, nous dit Khadidia, je n'ai pas un fort attachement au sucre dans notre cuisine habituelle. Le sucre n'est pas tellement utilisé. Les taux Burkina Faso, ben, ça dépend. Hein,
ça dépend, parce que les gens disent souvent, oui, le sucre n'est pas très utilisé, mais rien que le bissap que tout le monde boit, qu'on achète dans la rue, c'est très sucré. Le jus de baobab, c'est très sucré. Le gingembre, rien que ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre dans ces jus-là.
Brice aussi nous dit, moi, je ne suis pas trop sucre. J'en mets même pas dans la bouillie du riz. Je la préfère sans sucre. Et je prends même le bissap sans sucre.
Ah, ça, c'est bien.
Ouais, bissap, donc on rappelle, hein, c'est une infusion de feuilles d'hibiscus.
Oui,
si on met une feuille de menthe, par exemple, ça va donner un petit goût et on peut oublier qu'on n'a pas mis de sucre.
Alors, moi, ce que je fais, c'est soit les épluchures d'ananas, parce que en fait beaucoup de gens disent qu'ils mettent beaucoup de sucre dans le bissap parce que c'est acide, et effectivement les calices d'oseille de Guinée ont un pouvoir très acide, et pour pouvoir casser cet acide, en général en cuisine on vous dit d'ajouter du sucre pour rééquilibrer, sauf que dans le bissap on met beaucoup de sucre pour essayer d'avoir moins d'acidité. Mais moi, ce que je conseille, c'est de mettre des épices dedans, de la cannelle, de la vanille. Ça, c'est trompeur en fait, parce que vous avez l'impression que c'est sucré alors que ça ne l'est pas. Des écorces d'ananas, ça vous permet d'avoir moins de sucre dans votre bissap.
Oui, c'est toute la question finalement. Est-ce que une recette qui a du goût a moins besoin de sucre, selon vous ?
Ça dépend des produits qu'on va utiliser. Ça dépend des produits qu'on va utiliser. Franchement, par exemple, pour
vous citiez les épices, la cannelle, la cardamome, les herbes aromatiques. Si on met plus de goût dans un plat, on peut se passer du sucre ?
Ça dépend. Je ne sais pas ce que Fatou...
en fait, moi, par rapport aux substituts, moi, je ne supprime pas totalement le sucre. Alors, je privilégie vraiment l'utilisation des sucres non raffinés, tout ce qui est sucre roux, muscovado, rapadura, sucre de coco, des choses comme ça. Mais j'ai quand même le sentiment, après c'est personnel, hein, que quand il n'y a pas du tout de sucre, ça n'a pas la même saveur. Donc, qu'il manque un petit quelque chose. Moi, je serais plus de l'école de diminuer de façon drastique la quantité de sucre. Mais de la supprimer totalement, pour moi, en tout cas en pâtisserie, c'est compliqué.
Oui, ouais. Sachant que quand on parle de cuisine ou de pâtisserie, c'est quand même de la chimie. Et pour qu'on puisse avoir certains effets, certaines textures, il faut du sucre.
Est-ce qu'on continue d'enseigner, vous qui avez étudié toutes les deux dans une grande école de cuisine et de pâtisserie, est-ce qu'on continue d'enseigner la pâtisserie dans les écoles avec les mêmes proportions de sucre qu'il y a 20 ans ?
Non.
Non.
Non, clairement. Non. Parce que je ne sais pas, quand on ouvre un livre de recettes d'un très célèbre pâtissier français qui vend des macarons dans le monde entier, oui. On se rend compte qu'il y a quand même comme un problème avec les quantités de sucre, non ?
Non, mais c'est tout à fait ça. Quand on apprend même à faire des macarons, on se dit waouh, il y a pas mal de sucre.
C'est le sucre qui tient le blanc d'œuf, en fait. C'est ça,
le sucre qui tient le blanc d'œuf, mais aussi pour avoir la texture. Quand on dit macaroné, donc ce mélange donc de meringue, enfin de blanc monté avec le sucre, ouais. Plus la poudre d'amande pour avoir la bonne consistance, et le sucre qui va aussi permettre ouais. ça. Ouais. Mais ça, ce n'est rien, parce que quand on regarde les manuels de pâtisserie d'avant, à l'époque de Taïwan, Escoffier, c'est encore plus sucré. Ouais. Et on tend plus à une cuisine et une pâtisserie avec beaucoup moins justement de sucre.
Mais ouais, alors vous, quand j'ai découvert ces recettes-là, parce que moi je faisais ma tambouille dans ma cuisine avant de professionnaliser tout ça et de passer le CAP, et je pensais qu'il y avait, enfin quand j'ai découvert ces recettes, je pensais qu'il y avait des erreurs, tellement la quantité me paraissait, en sucre et en beurre d'ailleurs, me paraissait énorme.
Vous avez une maman sénégalaise, un père
exactement,
malien. Est-ce
oui.
que vous, dans votre enfance, il y avait beaucoup de sucre ou pas dans votre éducation, ou pas spécialement ?
Pas spécialement, parce que... Alors, tout d'abord, enfin, nous, on est plus salés à la maison.
Dans la famille,
plus
oui.
Les vagues. Il n'y avait pas énormément de sucre, non. On privilégiait d'autres choses. Donc,
et vous, Marie Chioka, pourquoi vous vous êtes intéressée à un livre sur les pâtisseries sans sucre ajouté ?
Alors, voilà, c'était tellement intéressant ce que vous disiez avant que voilà, je n'osais pas vous couper, mais je voudrais rebondir sur...
Bien
trois,
sûr,
quatre choses.
Allez-y.
D'abord, par rapport à l'expérience d'acheter un très beau gâteau chez un pâtissier, d'être super déçu au moment de le déguster, c'est pareil au restaurant. Souvent, on rêve d'une mousse au chocolat ou d'un fondant, et puis quand il arrive dans l'assiette, on n'a que le goût du sucre ouais. dans la bouche. C'est tellement frustrant. Moi, je trouve que c'est vraiment un équilibre tout à fait. Trop de sucre tue le goût, et pas de sucre du tout, ça tue le goût aussi. Donc, en tant que cuisinière et pâtissière, ce que je vais chercher, c'est un petit peu cet équilibre. Je suis un petit peu debout sur un fil en mode funambule entre trop de sucre, c'est pas bon, ouais. pas de sucre, c'est pas bon. Mais il y a une chose qui est très importante, je dis souvent aux gens, quand je l'ai écrit sur mon blog ou dans mes livres, pour être en bonne santé, on le sait, il faut manger moins de sucre.
Ouais.
Il faut s'y adapter en fonction de son état de santé réel, parce que par exemple, il y a certains sucres comme le muscovado dont parlait la jeune femme juste avant.
Qui vient du sucre de canne, hein, on est bien d'accord, c'est
voilà.
ce que vous disiez, Fatoumata Diarra.
C'est très bon, par exemple, pour des enfants en pleine croissance, c'est formidable, ça rapporte beaucoup de choses. Par contre, pour des diabétiques, des personnes qui sont vraiment gravement malades, c'est pas idéal pour eux. Donc, voilà, la question du sucre, elle est très délicate, et elle est vraiment à nuancer énormément pour bien expliquer aux gens. Mais de toute façon, si on devait retenir une chose, il faut manger moins sucré. Et ce qui est très consolant, c'est que c'est comme pour les gens qui doivent arrêter le sel... On s'habitue très vite. En fait, le palais se réhabitue très vite à manger moins sucré.
Mais c'est surtout qu'on découvre en fait le goût voilà. vraiment des aliments
oui, vrai.
Quand on sucre beaucoup moins
voilà,
les desserts. Alors vous, la prouesse quand même de votre livre, Marie Chioka, le livre Réussir ses pâtisseries sans sucre ajouté, c'est que dans vos recettes, il n'y a donc pas les édulcorants, pas le sirop d'agave, même pas le miel, hein, dont parlait Stéphane Besançon.
Aucune alternative au sucre. C'est pour ça que c'est un livre un peu Pour ma fille et moi, ça a été vraiment un livre un petit peu expérimental.
On va dire un casse-tête quand même.
Oui. Et donc, justement, je rebondis aussi sur ce que vous disiez juste avant. Donc, quand ma fille a passé son CAP pâtisserie, ça date d'il y a à peine 3 ans. Mm-hmm. Et bon, je ne citerai pas l'école pour ne pas faire de soucis, mais il y avait énormément trop de sucre. La pauvre, elle faisait des gâteaux. On n'arrivait pas à les manger. Et pourtant, on a une drôle de bande de gourmands à la maison. Mais c'était impossible. Oh là là, à la limite, mon mari et les garçons, qui sont un peu plus gourmands, ils arrivaient à en manger 3 cuillères. Mais nous, ça nous restait en travers. C'était affreux. Il y avait 400 grammes de sucre dans certains gâteaux. Et donc, elle se disait, oh là là, bon, ouais, je fais ça pour mon CAP, mais après je ferai autrement. Et donc, pour ce livre-là, on a, pour être clair, on n'a pas réussi à tout refaire. Parce que, comme vous disiez, la pâtisserie, c'est de la chimie. On ne peut pas faire de la meringue sans sucre ajouté du tout, exactement, pour la raison qu'expliquait la personne juste avant.
Antococagne, oui. C'est le sucre qui tient le blanc d'œuf, en fait.
Non, hein. Fait, voilà. Mais on peut faire des choses qui soient délicieuses. Par exemple, des cookies, des moelleux, des gâteaux, même des gâteaux de fête absolument incroyables, en utilisant juste les fruits, donc comme vous disiez, frais ou séchés, le chocolat noir à 70%. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, je plussois ce qui a été dit juste avant, ajouter de la vanille dans les desserts, ça change tout. Ça change tout, parce que ça a un côté très rond. Ça, un dessert dans lequel on a rajouté de la vanille, il semble tout de suite plus sucré que si on n'en avait pas rajouté.
Alors que la vanille en tant que telle, je parle sous votre contrôle, Antococagne ne produit pas de goût sucré normalement.
Non, ne produit pas de goût sucré, mais c'est comme si ça disait au cerveau c'est sucré, alors que ça ne l'est pas du tout.
Voilà.
Et est-ce que le goût change quand on remplace le sucre par autre chose? Quand, par exemple, Marie Chioca, vous faites beaucoup de tartes avec des fruits, avec une pâte non sucrée, des cakes à la banane, etc. Est-ce que le goût est vraiment différent ou pas?
Souvent, le goût est beaucoup plus intéressant. Mais voilà, pour chaque dessert, ça va être vraiment un équilibre à respecter. On ne peut pas... Il n'y a pas de solution miracle. On ne peut pas dire, par exemple, aux gens, remplacez, quand vous avez une recette de base, remplacez le sucre par tant de pommes séchées, broyées. Ça ne marchera pas dans toutes les recettes, vous voyez. Mais le goût peut changer quand on met du miel dans un gâteau, ça apporte quelque chose. Ça, je parle pour des recettes où on a rajouté donc d'autres sucres. Mmh. Quand on met du sucre de coco, ça change le goût. Quand on met du muscovado, ça change le goût. Mmh. Et ça peut être très, très intéressant en général.
Oui, alors vous oui,
j'avais une question pour Marie. Le sucre, c'est un produit sec. Donc, quand on l'utilise dans la pâtisserie, ça, c'est souvent des produits secs. Mais les fruits ou de la purée de fruits, c'est beaucoup plus liquide.
Et oui, ça apporte de l'humidité.
Oui, ça apporte de l'humidité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rajouter de la farine? Comment vous faites, en fait, pour avoir l'équilibre et avoir la texture?
C'est vraiment une excellente question. C'est pour ça qu'on a fait un peu, vous savez, comme le grand Schtroumpf dans son laboratoire, on a fait plein d'expériences avant d'arriver à des gâteaux qui soient super bons, parce que ça modifie tout. Ouais. Justement, il y a cet effet humectant. Même les fruits séchés, par exemple, vous prenez des pommes séchées, des cranberries, des raisins secs, des ananas séchés, tout ça, c'est très intéressant, mais c'est déjà plus humectant. Ça peut être séché, c'est plus humectant que du sucre. Et donc, il faut revoir à chaque fois toute la recette. Mais ce qui est sympathique, c'est qu'une fois qu'on a réussi à mettre au point une recette sans sucre ajouté du tout et qu'elle fonctionne bien, on peut en général la décliner avec d'autres fruits pour changer les saveurs. Voilà. Et sachant que la plupart du temps, c'est vrai que la pâtisserie, c'est quelque chose de très exigeant. Il ne faut pas trop s'amuser à changer, à changer un ingrédient par un autre. Par contre, remplacer, par exemple, des pommes séchées par de l'ananas séché, ça va vous donner un gâteau totalement différent. Et en général, ça fonctionne sans souci.
Sachant que l'ananas séché va être plus sucrant qu'une pomme séchée qui est un fruit plus acide. Hein.
Pas forcément. Non, je vous assure, pas forcément. Il faut juste se méfier des cranberries, justement, qui sont très acides.
Des petites baies rouges.
Ça dépend des ananas, parce que les ananas chez nous...
Marie Chioca, vous utilisez beaucoup de poudre d'amande, de poudre de noisette, et pour cause, hein, vous vivez en France, dans le Dauphiné. Mais par exemple, sur le continent africain, Anto, si on utilise des arachides grillées, des cajous grillés...
On a les pistaches africaines...
Est-ce que ça donne aussi ce petit signal au cerveau qui se passe un truc sympa et qu'il n'y a pas besoin de rajouter du sucre ou pas?
Alors moi, j'utilise ces poudres-là pour remplacer tout ce qui est poudre d'amande, poudre noisette dans tout, les biscuits.
Il pourrait y avoir comme une vague idée de goût sucré, par exemple, dans la cajou ou pas du tout?
Je ne dirais pas une vague idée, mais déjà en termes de texture, ça, on se rapproche de quelque chose de sucré.
Ouais, c'est ce que j'utilise aussi, la cajou, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce qu'elle dit. Après, je ne sais pas si psychologiquement...
Ça modifie davantage la texture.
Ouais, je pense que ça rajoute pas, ça remplace pas le sucre, hein, mais on peut avoir cette sensation-là. Avec la cajou et l'arachide.
Ça donne un signal au cerveau qu'il y a un goût intéressant et donc c'est pas la peine de somnubiler sur l'absence de sucre, par exemple, hein, aussi. Vous restez avec nous, on va passer en revue les alternatives au sucre et voir comment les utiliser aussi très concrètement dans vos recettes sucrées, mesdames. Ça sera juste après la voix de Las Moyero. Et bien sûr, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On aimerait connaître vos astuces pour cuisiner sans sucre ou avec beaucoup moins de sucre.
Tô em goma te quer ser o ningo como Aleluia rumani amomom Ya liguei no melni amulo morom Acho que eu parti mani ai borom Mulana tu de mani moyaro Saligaila Akhale bile mani moyaro Saligaila Mulana tu de mani moyaro
De voisins, on est en direct chez 7 milliards sur RFI. Cuisiner sans sucre aujourd'hui, ça peut tourner au casse-tête. Vous nous l'expliquiez, Marie Chioca, vous êtes en ligne avec nous pour votre blog Saine Gourmandise au pluriel. Vous avez publié plus de 40 livres de cuisine, notamment ce livre assez spécifique, Réussir ses pâtisseries sans sucre ajouté. Dans ce livre-là, il n'y a que des recettes avec uniquement des fruits séchés ou frais, mais même pas les autres alternatives au sucre. Alors bien évidemment, nous on évoque toutes les alternatives au sucre avec le chef Anto Cocagne, chef à domicile. Vous avez publié Goût d'Afrique et Fatoumata Diarra, la créatrice culinaire avec son entreprise Papille Exotique. Un message d'Étienne à Libreville. Dans mon café, je mets 7 morceaux de sucre. Après,
oh, ouais, mon Dieu.
Je me fais un thé. je mets 12 morceaux de sucre. Dans le deuxième, 8 morceaux. Dans le troisième, 5 morceaux. Et l'après-midi, ça continue. Maintenant, j'essaye de remplacer le sucre par le miel.
Oui. Non, mais Étienne, là, c'est pas bon, ça. Tu veux arriver jusqu'à 2023 ou...
Là, c'est... Non, non. C'est Anto, gabonaise, qui répond à son compatriote Étienne à Libreville. Écoutez aussi le message de Mariama, qui est également à Libreville, au Gabon.
Bonjour les voisins et les voisines, ici Mariama à Libreville. J'utilise rarement du sucre en cuisine, j'utilise par contre du sel, et même c'est de manière raisonnée parce que je tiens à garder une belle taille et puis je fais très attention à mon état de santé, bien que je sois jeune. Mais les mauvaises actions qu'on pose étant jeune nous rattrapent dans la vieillesse, surtout concernant la santé. Et mon lien avec le sucre, c'est que je consomme du sucre, mais de manière modérée. Ça veut dire que par exemple, pour une boisson au gingembre, au lieu de mettre du sucre, ben, je préférais mettre du miel. Si j'ai la possibilité de substituer le sucre par un autre aliment beaucoup plus sain, je le fais. Donc, soyez en bonne santé, pratiquez du sport et ne mangez pas trop gras, trop sucré ou trop salé.
Eh ben voilà, ça c'est, à mon avis, c'est une adepte, une fidèle de Priorité Santé dans cette émission présentée par Caroline Paris. Évidemment, on vous explique en permanence pourquoi le sucre est mauvais pour la santé. Stéphane Besançon, le nutritionniste, nous disait tout à l'heure, l'intérêt du miel, c'est que comme il a un pouvoir sucrant très fort, on en met beaucoup moins. Dans quelle proportion vous utilisez le miel ? Comment vous vous en servez dans vos pâtisseries, Fatou Matiadara ?
Moi, je n'utilise pas du tout de miel. J'utilise uniquement des sucres bruns, mais je réduis considérablement la quantité. Voilà. Je n'utilise pas de miel.
Et pour vous, Anto ?
Alors, pour moi, par exemple, si dans une recette, si je dois utiliser pour 6 blancs, si je dois faire une meringue, par exemple, si pour 6 blancs d'œufs, si j'ai 100 grammes de sucre, je vais utiliser 2 cuillères à soupe de miel. Donc, ça ne me fait même pas à peine 20 grammes, 25 grammes.
À la place des 100 grammes de sucre.
Oui, à la place des 100 grammes de sucre.
Donc, on pourrait dire que ça sucre deux fois plus en termes de sensation.
Ça sucre deux fois plus. Et en plus, ça apporte une certaine rondeur, le miel, surtout quand vous avez du miel sauvage, ça apporte aussi un petit goût en plus qui fait que ça, on oublie vite en fait ce goût de sucre raffiné qui des fois peut être même en termes de goût peut paraître un peu industriel, alors qu'avec le miel on a quelque chose de plus rustique, je trouve, en termes de saveur.
Et pour vous, Marie Chioca, vous utilisez le miel dans ce même type de proportion, divisé par deux, voire les deux tiers?
Pas du tout. En fait, justement, ça m'étonne un peu. On n'utilise peut-être pas tout à fait les mêmes miels. Parce que moi, j'ai pas vraiment... Pourtant, ça fait des années que je cuisine. Dans tous mes livres, quand il y a des recettes de gâteaux, c'est toujours des sucres alternatifs comme le miel, le sirop d'agave, le sucre de coco, etc. Et pourtant, j'ai pas remarqué que le miel ait un pouvoir sucrant deux fois plus élevé. Et je pense que ça dépend évidemment des variétés de... Enfin, oui, des variétés de miel. Vous savez, vous avez du miel de châtaignier, du miel de... du miel de lavande, du miel d'acacia. Alors celui que j'utilise énormément en pâtisserie, c'est le miel d'acacia pour deux raisons. D'abord, il a une saveur très florale, il n'a aucune amertume, aucune acidité. Donc c'est vrai que je dirais que c'est peut-être le plus sucrant de tous les miels.
Oui.
Et aussi, là, c'est celui des miels qui aurait, en tout cas des miels de France, qui aurait l'indice glycémique le plus bas. Et ça, on n'en a pas trop parlé, on n'a pas même pas parlé depuis le début de l'émission. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je recherche dans une alternative au sucre, c'est que l'indice glycémique soit plus bas pour les personnes qui font un petit peu attention à leur ligne ou qui ont des problèmes un peu de glycémie. Voilà. Et c'est vrai que faut faire très attention au miel qu'on utilise parce que si par exemple vous prenez du miel de châtaignier, qui est très amer, ou du miel de forêt, qui est un miel-là fabriqué par des petites mouches ou fabriqué par des abeilles, vous aurez vraiment une saveur amère qui va totalement gâcher votre dessert. C'est pour ça que je précise toujours quel genre de miel. Et les trois miels que je trouve les plus extraordinaires en pâtisserie à titre personnel, c'est donc l'acacia, le miel de lavande, pour tous les gâteaux à l'abricot ou à la fleur d'oranger, c'est merveilleux, ou justement le miel d'oranger. Le miel de fleur d'oranger, c'est rare, mais c'est vraiment un petit régal. Au niveau des papilles.
Anto Cocagne, sur les miels.
Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas cette expertise en termes de miel, parce que la plupart des miels que j'utilise, c'est des miels que je ramène d'Afrique lors de mes voyages. Et quand on vous les vend, on vous dit bah, c'est du miel de fleurs, c'est du miel sauvage, et on vous précise pas forcément.
Donc, les abeilles sont allées où elles veulent, dans la forêt.
Exactement, donc on ne sait pas forcément de quel miel. Mais c'est vrai qu'il serait peut-être intéressant de se pencher sur la question pour mieux, justement, aiguiller nos préparations.
Pour ce qui est du sirop d'agave, je précise que c'est un édulcorant qui est produit, qui est naturel, produit à partir de l'agave, qui est un cactus, hein, qui produit de la sève sucrée. Il y a aussi le sirop, le sucre de bouleau, qui là aussi provient de la sève de l'arbre, hein, du bouleau. On pourrait dire la même chose du sirop d'érable. Alors évidemment, les érables, à ma connaissance, on n'en trouve pas sur le continent africain.
Non, du tout.
C'est la signature du Canada. Mais en fait, c'est ce goût sucré qui provient de la sève des arbres. Est-ce que ça apporte quelque chose de spécifique, Marie Chioka?
Oui, alors, déjà, certains de ces sirops ont un indice glycémique plus intéressant que le sucre de canne. Il y a la sève de quitul et le sirop d'agave, principalement, et le miel d'acacia, pour parler des sucrants sirupeux. Par contre, le sirop d'érable, lui, a un indice glycémique plus élevé, mais il apporte énormément de nutriments. C'est comme le miel. Le miel, on pourrait en parler des heures, mais on n'a pas le temps aujourd'hui de tous les bienfaits santé du miel. Et donc, effectivement, ce sont des alternatives saines. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaitement saines, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait qu'elles soient estampillées saines, ça veut dire qu'elles apportent davantage à notre corps, elles nous font plus de bien que le sucre blanc, mais à consommer avec modération.
Bien sûr.
Y a plein de choses comme ça dans la vie qui sont bonnes en petite quantité et qui nous font du mal quand on en abuse. Voilà.
Alors, on n'a pas encore parlé du pouvoir sucrant des fruits. Marie Chioka, vous utilisez beaucoup les fruits dans vos recettes pour sucrer, mais pas forcément pour une tarte aux fruits, hein, mais pour des gâteaux. On va y revenir. Écoutez les alternatives au sucre suggérées par cet auditeur qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Brice est à Yaoundé au Cameroun.
C'est vrai que dans notre culture, il y a des repas qui nécessitent l'emploi du sucre. Néanmoins, pour pallier cela, nous utilisons les substituts du sucre naturel. Par exemple, lors de la cuisson d'un repas fait de manioc broyé dans un mortier, et nous y mettons soit de la banane mûre, soit de la patate douce.
Recette aussi de Raïssa, qui est aussi au Cameroun, à Yaoundé. Elle nous dit « Lorsque je fais des beignets, je ne mets pas de sucre, mais plutôt de la banane bien mûre, que je pile, que je mélange à ma farine. Je rajoute un peu de levure et ma composition est prête. Je passe juste à la friture. Ce plat s'appelle les beignets bananes. Et on peut aussi le faire avec de la patate douce, effectivement, qui a un petit peu de sucre. Hein. Les carottes aussi ont ce petit goût sucré. On râpe la patate douce dans la farine et on procède de la même manière. Et puis, il y a Marlise aussi, également à Yaoundé. Je travaille sur le marché pour mes recettes. Je fais bouillir des noix. Ensuite, je les pile pour faire de la pulpe de noix. Et je mélange avec des plantains ou des bananes. Il faut qu'elles soient bien mûres. Et là aussi, j'ajoute ce mélange à des plats. Et c'est tellement bon, finalement, qu'il n'y a besoin de rajouter aucun sucre.
Ouais. Oui, bien sûr, parce que la banane plantain, il faut savoir que c'est un légume quand même qui est riche en amidon qu'on sait vert. Et plus elle mûrit, plus cet amidon se transforme en sucre. Donc quand elle est très, très mûre, la peau est vraiment bien noire. C'est là que vous avez la chair de la banane qui est vraiment très, très sucrée. Et qui, justement, on a même des papillotes. Hein. Je sais que ma mère m'en parlait, une papillote avec la chair de banane plantain très mûre, avec pilée avec de la pâte d'arachide qu'on met en papillote et qu'on cuit. Et ça vous donne des petits gâteaux qui sont très bons.
Ouais, on n'a pas besoin de rajouter de sucre. Non. La banane plantain mûre comme ça, non.
Alors la banane, c'est vraiment un fruit qui est extrêmement sucré, hein, probablement un des
quand
fruits...
C'est très mûr, oui, c'est très sucré.
Marie Chioka, vous utilisez, vous, la banane?
Alors, je vais vous faire sourire. Depuis peu, étant donné que je suis mortellement allergique à la banane, donc depuis que j'écris des livres avec ma fille, on peut à nouveau faire des recettes à la banane. Ah oui. Du coup, voilà, ce sont des recettes qu'elle met au point elle-même. La banane, évidemment, c'est absolument magique, hein, pour faire des desserts. Je vous raconte pas un gâteau au chocolat avec de la banane écrasée dedans. Enfin, c'est un bonheur. Par contre, c'est vrai que la banane apporte énormément à la santé, mais de même que la date, par exemple, ce sont des ingrédients auxquels on doit faire attention si on surveille un peu son poids ou si on a des problèmes de diabète, parce qu'ils ont un indice glycémique élevé.
Très élevé, oui.
Voilà, donc ça va faire beaucoup de bien à des enfants en pleine croissance, ou à des sportifs, ou à des gens qui ont une santé tout à fait bonne et parfaite. Mais on ne peut pas en abuser. Voilà, c'est très... pareil, je suis désolée, toujours en train de... J'ai l'impression d'être un peu le grand schtroumpf, on a toujours nuancer cela. Mais voilà, c'est important, je pense, parce que j'ai vu des gens se rendre très malades en remplaçant le sucre par des produits qui pensaient être sains, mais oui, sains, avec 4 guillemets de chaque côté pour...
Et d'où l'intérêt, d'ailleurs, de se déshabituer du goût sucré, parce qu'une fois qu'on s'est un peu déshabitué du goût sucré, moi, je me souviens, la première fois que j'ai goûté un thé sans sucre, c'était il y a des années, au cours d'un reportage, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre de ne pas mettre de sucre, mais la dame en a proposé comme ça, elle n'avait pas de sucre. En fait, c'était un thé qui était délicieux. Et après, bah, j'ai compris que, du coup, on appréciait le goût du thé, on faisait marcher son cerveau autrement. Marie Chocca, ceci dit, vous parliez des dates, vous utilisez les dates pour faire une sorte de caramel. Comment vous faites ?
Alors, c'est vraiment très bon. Alors, je dis tout de suite, je n'ai pas le... Comment dire ? J'ai pas de mérite à avoir réalisé cette recette, parce que c'est une recette qui tourne depuis plusieurs années sur Internet. En fait, on fait tremper les dattes et on les mixe régulièrement. Enfin, pas régulièrement, mais bien... Comment expliquer ? C'est pas le mot que je cherchais, bien... De façon qu'elle devienne très... Alors, je trouve pas mon mot,
de façon homogène. Très homogène, c'est ça, comme une crème. Oui, une crème de dattes.
Ouais. Oui. Mm-hmm. Voilà. Et une fois que c'est bien mixé, on rajoute un corps gras. Et ce qui va très bien avec la datte, c'est la crème de coco. Mm. Et ce qui est très important aussi, le petit plus auquel personne ne pense, mais qui change vraiment tout, c'est la petite pincée de fleur de sel. Parce que souvent, quand vous mangez du caramel, du vrai caramel avec du beurre et du sucre, il y a souvent du beurre salé dans la recette. Mmh. Et donc, voilà, datte, coco, fleur de sel, le goût est extraordinaire. Ouais,
ça me fait penser aux macroutes qu'on trouve en Afrique du Nord, ce qui utilise justement les dattes qu'on mixe comme ça. Tout à fait, oui.
Voilà.
Mais et eux, ils rajoutent un peu de sucre dedans.
Ah, mais c'est pas nécessaire avec la datte. Ouais, et le résultat est très onctueux. On peut en appeler un gâteau, on peut en faire tout un tas de choses. C'est vraiment... En plus, c'est très simple.
Je sais pas pourquoi, mais là, quand vous parlez, Marie, j'ai comme un espèce de truc qui salive dans la bouche. Là. Il y a quand même l'injonction du sucre qui remonte. On est bien programmés quand même, nous, les humains et les 7 milliards de voisins. On va passer à vos recettes, mesdames. Anto, une île flottante à la mangue.
Une île flottante à la mangue.
Le principe de l'île flottante, on va le rappeler, ce sont des blancs montés en neige très légèrement durcis.
Très légèrement durcis. Alors, on peut les cuire... soit dans du lait, soit au four dans la recette. Et je remplace la crème anglaise par la mangue, parce que la mangue...
On reprend la recette. Donc, il faut 6 blancs d'œufs.
Alors, pour 6 personnes, 6 blancs d'œufs, 2 cuillères à soupe de miel, 4 mangues bien mûres et un peu d'eau froide. Donc, on va d'abord monter nos blancs en neige. Quand ils commencent à être un peu fermes, on va rajouter le miel. Et quand ils sont bien fermes, on va les cuire. On va faire des petits monticules. Et on va les cuire au four à 180 pendant 8 minutes. Ensuite, on va faire une sauce avec la mangue. Donc, on remplace la crème anglaise. Et ce qui est bien avec nos mangues sur le continent, c'est qu'elles sont très sucrées et on n'a pas besoin de rajouter de sucre. Donc, on épluche les mangues, on les coupe en morceaux, on les mixe. Pour avoir une texture quand même de sauce, on rajoute un peu d'eau si nécessaire. Et puis, on réserve au frais. Et après, pour dresser, c'est dans un joli bol, une jolie coupe. On a la sauce mangue, on a nos meringues qui sont froides et on peut décorer par-dessus avec des noix de cajou grillées.
Alors, vous parlez de meringues, mais ce sont bien des blancs en neige qui ne sont pas encore durcis comme des meringues, on est d'accord.
Oui, alors ce n'est pas dur, mais c'est...
C'est quand même un truc un peu mou dans la bouche.
Oui, c'est nuageux.
Nuageux, un nuage dans la bouche.
Exactement.
Et ces blancs en neige cuits 8 minutes à 180, ça ne les durcit pas ?
Non,
ça ne les brusque pas ?
Non, parce qu'en général, pour avoir cette meringue dure, on rajoute de la fécule, soit de pommes de terre ou de maïs, pour accélérer justement le durcissement de la meringue.
Ah oui,
et là,
si on voulait faire des meringues.
Exactement.
Des questions, Marie Chocca ?
Déjà, ça a l'air absolument terrible.
Mais... ouais, alors, le seul problème en France, c'est pour trouver des vraies mangues très mûres.
Il faut prendre
difficile.
Des mangues avion. Parce que les mangues
vive
avion,
le réchauffement climatique.
Oui, oui, malheureusement.
Bon, de temps en temps, on peut faire un petit écart.
Je me disais que j'étais déjà en train de me dire, tiens, peut-être en été chez nous avec de la pêche ou quelque chose de qui puisse être réduit comme ça en texture bien crémeuse.
Bien sûr.
C'est génial. L'idée est géniale.
Fatoumata Diarra, question ?
Non, je n'ai pas de questions. Je me dis aussi que ça a l'air délicieux, sa recette-là, ce qu'elle propose.
Marie Sciocca, alors vous nous proposez toujours dans la gamme de ces recettes sans sucre ajouté. D'abord, peut-être une mousse au chocolat minimaliste, assez rapidement. Et puis après, j'aimerais bien qu'on ait le temps aussi de donner les cookies pommes-noisettes.
Ah, les deux.
Si vous avez le temps, on verra.
Ça me fait rire parce que j'ai envoyé les deux en disant « choisissez ». Mais j'avais une petite quelque chose en tête qui me disait que vous alliez prendre les deux. Alors, la mousse au chocolat, c'est très simple. On peut faire une mousse au chocolat totalement dingue avec juste des œufs ultra frais et du chocolat pâtissier à 70%. Donc, je vous ai envoyé les recettes. Vous allez les mettre sur le site pour les gens.
Oui, sachant que dans le chocolat pâtissier, il faut quand même être honnête, il y a toujours un petit peu de sucre.
Bien sûr. Bien
oui,
sûr.
Mais 70%, il y a moins de sucre c'est que sûr. Quand c'est vous avez sucre, un 52, oui, qui est le chocolat classique.
Moi, j'utilise pas de
beaucoup moins de sucre et c'est très largement suffisant pour faire une mousse au chocolat avec un parfum extraordinaire. Et donc, tout simplement, bon, je ne donne pas la recette en détail, les gens pourront la retrouver.
Vous rajoutez du rhum ambré, le rhum aussi, ça ajoute aussi cette petite note sucrée.
Voilà, dans les options de cette recette, on peut rajouter une cuillère à soupe de rhum ambré, parce que chocolat noir, rhum, c'est vraiment délicieux. Et je me propose aussi de rajouter un peu de vanille et une pincée de fleur de sel. Alors, c'est comme pour le caramel de date tout à l'heure, la pincée de fleur de sel dans la mousse au chocolat, ça fait vraiment une différence phénoménale au niveau de la dégustation. Et donc, il s'agit juste de faire fondre le chocolat au bain-marie, c'est très important, uniquement au bain-marie. Et ensuite, de le mélanger avec les jaunes d'œufs, puis d'incorporer dans cette préparation de chocolat fondu et de jaunes d'œufs crus, les blancs en neige. Et ça suffit, en fait, à faire une mousse au chocolat totalement folle, vous savez, avec des grosses bulles qui fait scritch, là, quand on passe la cuillère.
Vraiment, c'est une torture. Le bain-marie, je précise pour les voisins et les voisines qui nous écoutent, le bain-marie, c'est-à-dire qu'on fait fondre le chocolat dans un bol, et le bol est lui-même dans l'eau bouillante.
Exactement.
Hein, vous l'infirmez, oui. Anto, pour ne pas casser la molécule du chocolat, hein, c'est ça?
Oui, et c'est très important, je précise qu'il y a peu de gens qui le savent, il ne faut jamais qu'il tombe la moindre goutte d'eau dans le chocolat en train de fondre, parce que bizarrement, ça le durcit immédiatement. Et donc, après, vous ne pouvez plus l'incorporer correctement au blanc en neige.
Ouais, alors qu'on aurait le réflexe de mettre de l'eau pour que justement, il devienne plus liquide. Marie Sciocca, les cookies pommes-noisettes. D'ailleurs, si on n'avait pas de pommes, on pourrait remplacer ça par quoi
Un autre fruit séché, par exemple de la mangue.
De la mangue, de l'ananas, bien sûr.
De la papaye, voilà. Et donc, ce sont juste des... On mixe très rapidement tous les ingrédients. Donc, il y a donc des fruits séchés, un peu de farine, un peu d'huile et des noisettes. Et on fait des petits cookies avec ça. Pareil, je vous ai envoyé la recette si les gens veulent le détail. Mais au final, on obtient des petits biscuits hyper croustillants. Ils sont pas très sucrés, mais qui ont un goût totalement fou. Et moi, chaque fois que j'en fais à la maison, j'ai beau essayer de les cacher, tout le monde les retrouve.
Et là, vous utilisez le jus de pomme aussi. On pourrait utiliser pour sucrer, on pourrait utiliser non.
Ça va vous étonner, le jus de pomme, justement, les gens pensent que si je mets du jus de pomme dans mes recettes, c'est pour sucrer. Eh bien non, c'est parce que j'ai découvert, alors je ne peux pas vous expliquer d'un point de vue chimique pourquoi, parce que j'en sais rien, mais j'ai découvert que quand on met dans des pâtes à tarte ou des pâtes à biscuits du jus de pomme ou du vin blanc, je ne sais pas pourquoi, ça donne un croustillant incroyable, un côté sablé. Alors d'accord. Je voudrais bien qu'un jour un grand chimiste m'explique le pourquoi, mais j'ai fait plein d'essais. J'ai souvent essayé de faire les mêmes recettes en ajoutant soit de l'eau, soit du lait, soit du jus de pomme ou du vin blanc. Et à chaque fois, vraiment, c'est beaucoup plus sablé et croustillant quand on met du jus de pomme ou du vin blanc. C'est pour ça que dans mes pâtes à tarte, il y a souvent du jus de pomme ou du vin blanc. Alors le vin blanc, ça peut paraître bizarre, mais en Corse, les gens ont pas mal de sucreries avec du vin blanc. Mais là,
en Italie aussi, tout à fait.
Oui, voilà.
Vous restez bien sûr en ligne avec nous, Marie Sciocca, Fatoumata Diarra. On revient aussi avec vous au chocolat. Parce que c'est vrai que le chocolat, c'est finalement quelque chose qui peut se passer le plus facilement de sucre.
Oui et non, parce que justement, moi, je travaille qu'avec du cacao, enfin, à au moins 60, avec une teneur minimum de 70, voire... moi, en fait, ça ne me dérange pas d'utiliser du cacao à 85%. Voilà. Donc... on est obligé d'y associer un petit peu de sucre quand même, sinon il est amer, hein, le cacao.
Donc là, c'est une recette de moelleux au chocolat.
Oui, c'est une recette de moelleux au chocolat. Voilà.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, c'est une recette de moelleux au chocolat qui est végétale. Donc, il n'y a pas d'œuf dedans. Il n'y a pas de lactose non plus. Donc, en fait, moi, j'utilisais de la farine de manioc, même s'il y a des sucres, du glucide complexe dedans, il y a de l'amidon dans le manioc. Mais c'est une farine qui est très intéressante, en tout cas en pâtisserie. De la poudre d'amande, de la noix de coco râpée, avec donc du cacao non sucré. Et de la levure chimique. Et alors, pour les 150 grammes de cassonade, on peut les utiliser.
C'est du sucre, hein,
c'est du sucre, mais on peut le remplacer justement pour ne pas avoir d'incidence sur l'index glycémique. On peut les remplacer par du sucre de bouleau, le fameux sucre de bouleau qui a un index glycémique très bas. Donc,
et le beurre,
et ça permet aussi
par...
de sucrer moins, justement.
Et vous remplacez le beurre par du lait de coco et du lait d'amande.
Alors, je ne remplace pas le beurre, je le remplace par de l'huile de tournesol. Mais au lieu d'avoir 100 ou 150 grammes de beurre, moi, je ne mets que 50 grammes d'huile de tournesol, qui est une huile assez neutre. Donc, on peut utiliser aussi de l'huile de pépins de raisin. Et donc, j'utilise aussi du lait de coco et du lait d'amande pour toute la partie donc, végétale. Donc, on mélange tous les ingrédients secs et ensuite, on rajoute tout ce qui est liquide. Donc, c'est une recette qui est très, très simple et très gourmande que vous pouvez reproduire à la maison.
Eh bien, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous, Marie Chioca. Vous utilisez aussi beaucoup d'huile de coco, qui a la spécificité d'être, de se durcir. Hein. Est-ce que l'huile de coco peut avoir un pouvoir sucrant comme le sucre de coco ou pas du tout, alors que ça vient exactement du même végétal?
Par contre, elle a un parfum très, très gourmand,
oui, qui
change vraiment une recette du tout au tout. Et si je devais choisir en tenant pas du tout compte de ma santé, mais juste de ma gourmandise profonde, si je devais choisir entre mettre du beurre ou mettre de l'huile de coco, par exemple, dans un fondant au chocolat, je crois que je mettrais de l'huile de coco. Pourtant, j'aime bien le beurre aussi. Hein.
Ouais.
Mais c'est pour dire, vraiment, ce sont pour moi les deux corps gras les plus délicieux qu'on puisse mettre dans des desserts. Après, j'aime bien l'huile d'olive aussi. Ça, c'est un peu curieux, mais j'aime beaucoup les olives dans les desserts. Mais huile de coco, beurre...
Très intéressant, tous ces substituts. On se rend compte quand même, avec une même recette, on peut varier indéfiniment les ingrédients pour obtenir quelque chose de tout aussi intéressant. Merci en tout cas à vous toutes pour cette émission Cuisiner sans sucre. Merci Anto, Cocagne, vous avez publié Goût d'Afrique. Ça, c'est la Bible, hein, pour retrouver le patrimoine culinaire africain chez Mango Édition. Merci à vous, Fatoumata Diarra. Papille Exotique, c'est votre entreprise spécialisée dans les pâtisseries afro-vegan sans gluten et très souvent sans sucre. Et merci à vous, Marie Chioca. On vous retrouve sur le blog Saine Gourmandise. Et puis, pour la prouesse, le livre, c'est Réussir ses pâtisseries sans sucre ajouté aux éditions Terre Vivante. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Moi, je vous remercie beaucoup et j'ai vraiment trouvé très intéressant de discuter. Je suis vraiment désolée parce que je ne savais pas qui parler du fait que je suis loin. C'est pour ça que j'ai du mal à appeler
Tout va bien, ça y est. On a bien réussi à dialoguer avec vous tous, hein, et vous toutes plutôt. Anto, Fatoumata, Marie. Dans quelques instants, ce sera le journal. On se quitte avec Caramello chez 7 milliards.
Lo tengo. Yo vengo con todo. Pa' los Mickey, pa' la Wiki, pa' la Hippie, pa' la que le guste vacilo. Yo vengo con todo. Pa' que pruebe y no te arrepienta. La mercochera se formó. Yo vengo con todo. Yo vengo con todo. Yo vengo con todo. En el Candyman, sí. Caramelo para ti, caramelo con maní, caramelo que te saca flow. Lo tengo yo. Lo que te endulza. Lo tengo yo. La noche loca. La
voisins. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Elsa Olezola, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, notre émission mensuelle pour aider les jeunes en recherche d'emploi et les conseils de nos spécialistes. Alors, comment préparer vos entretiens, valoriser vos compétences, prendre confiance en vous aussi, négocier pourquoi pas votre salaire. C'est le moment de poser toutes vos questions. Surtout, contactez-nous dès maintenant pour l'émission de demain. 33 7 64 45 51 41.